Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous et mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute. Mais surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Vous avez désormais la possibilité de faire un don pour soutenir Milkshaker et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJI, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, rubrique Milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on va parler des thérapies manuelles et de l'intérêt qu'elles présentent pour votre bébé, et en particulier lors d'une problématique autour de votre allaitement. Votre bébé vous fait mal quand il tète, il n'arrive pas à prendre le sein. Il n'est pas forcément évident qu'on pourrait se tourner vers un ostéopathe ou un chiropracteur. Pourtant, la succion de votre bébé est un mécanisme réglé comme du papier à musique, et le moindre désordre environnant pourrait mettre à mal votre allaitement. On vous explique tout avec Caroline Dubois. Elle est chiropracteur près de Bordeaux et elle travaille spécifiquement, tout comme moi, autour de ces problématiques de succion. On va toutes les deux tenter de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles il est important d'amener votre chouchou chez un thérapeute manuel après sa naissance, quels signes peuvent vous alerter, quels antécédents peuvent vous mettre la puce à l'oreille. On parlera bien entendu des freins de langue et de la prise en charge pluridisciplinaire dans laquelle les thérapeutes manuels ont une place de choix. On parlera aussi du syndrome de Kiss, on essaiera de vous expliquer quelle est l'origine de ce nom et ce qu'on peut faire pour y remédier. Aujourd'hui, je prends donc la parole avec Caroline. J'arrête de me cacher derrière mon micro et de poser les questions aux autres et j'espère que cela vous aidera. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Caroline, bienvenue dans Milkshaker.
Salut Charlotte, merci beaucoup.
Alors aujourd'hui avec Caroline, on va vous parler de l'ostéopathie et de la chiropraxie pour les bébés et en particulier autour de l'allaitement, évidemment, puisqu'on est dans Milkshaker. Caroline, est-ce que tu peux d'abord te présenter pour les gens qui nous écoutent?
Alors du coup, je suis Caroline Dubois, chiropracteur à Bordeaux et je travaille au sein du cabinet Santé à Flot, qui est un gros cabinet où on est 12 associés et où on travaille de façon pluridisciplinaire. Mmh. Et j'exerce exclusivement, quasiment plus qu'exclusivement avec les bébés, beaucoup de pédiatrie au cabinet. D'accord. Et je suis la maman d'un petit Charlie qui a 8 mois et demi.
Ok, très bien. Merci Caroline. Moi vous me connaissez, je suis Charlotte, je suis ostéopathe, je suis la créatrice de Milkshaker. Et donc voilà, on a décidé aujourd'hui avec Caro de s'allier toutes les deux pour faire un épisode où elle et moi allons intervenir sur différents sujets autour des thérapies manuelles, des bébés et de l'allaitement pour essayer de rendre nos discours complémentaires et pas vous faire deux épisodes, un sur la chiro, un sur l'ostéo, qui franchement serait à notre sens de la redite. Donc on allie nos forces pour vous faire un seul épisode tout beau et parfait. Donc Caroline, est-ce que déjà toi tu peux nous présenter ce que c'est que la chiro? Parce qu'une des grandes questions qui revient, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre la chiro et l'ostéo?
Alors, la chiropraxie, c'est une profession de santé manuelle où on part du principe que c'est le système nerveux qui régule tout l'organisme. Et s'il y a des dérangements articulaires, ça entraîne du coup des compensations et à force des douleurs. Le gros okay. principe de la chiro, c'est ça.
Ok, est-ce qu'il y en a des plus petits?
Non, il n'y en a pas de plus petits, vraiment. C'est juste, on part du principe que du coup, la colonne vertébrale est une grosse autoroute et qu'on libère le maximum de bouchons, donc de tension.
Ok, pour que la périphérie ensuite se libère aussi.
Exactement.
Et donc l'ostéopathie, définition un tout petit peu différente. Je crois que d'ailleurs c'est en ça que résident les vagues différences entre la chiro et l'ostéo. C'est un peu dans la philosophie de démarrage. Nous, on va moins être axé sur la colonne. La thérapie, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle aussi, qui elle part à la recherche de tensions, de blocages, de restrictions de mobilité, pour dire 15 fois la même chose, qui peuvent expliquer un dysfonctionnement dans le corps et donc des symptômes, que ce soit douloureux ou autre. L'idée, c'est de réharmoniser votre corps en ostéopathie, mécaniquement parlant. On va à la recherche de ces tensions qui peuvent être articulaires, musculaires, viscérales et qui sont à l'origine de ces symptômes. On va les libérer, ces tensions, dans l'idée de rétablir votre équilibre physique. Et c'est censé vous libérer des symptômes qui vont avec si ce déséquilibre mécanique en est à l'origine. Donc voilà, pour faire simple, ça bouge pas, c'est dense, c'est souple. On cherche à savoir où ça bloque, on redonne de la mobilité, ça permet à votre corps de fonctionner de façon plus optimale. Et alors donc, on fait ça toutes les deux sur les bébés, parce qu'ils peuvent présenter plein de blocages. On va vous expliquer pourquoi. Et d'abord, on va faire un petit point. Alors, Caro, est-ce qu'on commence par les symptômes qu'on peut retrouver hors allaitement et ensuite on passe à l'allaitement? Peut-être que c'est ça le plus logique, non?
Oui, pas de problème. Oui, très bien.
Alors, hors allaitement, les signes et les symptômes qui peuvent vous faire penser que votre bébé peut présenter des tensions, ou alors les antécédents qu'il a eus et qui peuvent faire penser qu'il faut consulter un ostéopathe ou un chiropracteur. On ne va pas faire de différence entre les ostéos et les chiro ici. Je pense qu'avec Caro, on a une vision assez similaire de la chose. Encore une fois, les vagues différences résident dans la philosophie au démarrage. Si vous trouvez quelqu'un autour de vous qui juste est bien formé, et c'est ça la clé, c'est vraiment quelqu'un qui est approfondi sa formation initiale, qui soit allé se former en plus, peu importe qu'il soit chiropracteur ou ostéopathe, le tout c'est qu'il travaille bien, ok? Je pense que deux ostéos peuvent être très éloignés en termes de pratique, comme un ostéo et un chiro peuvent être assez proches, donc surtout fiez-vous beaucoup au bouche à oreille et à ce que la personne soit formée.
Donc, bien d'accord.
Hors allaitement, qu'est-ce qui peut vous faire penser que votre bébé il a besoin d'aller voir un thérapeute manuel et qu'il présente des blocages? Le plus évident, c'est déjà de regarder votre bébé et de vous demander est-ce qu'il n'a pas une drôle de posture. Si votre bébé, quand vous le posez sur le dos, vous le retrouvez en virgule ou en banane, donc la tête et les jambes d'un côté ou de l'autre, qu'il a la tête toujours tournée du même côté, ou qu'il se met, une fois qu'il est dans vos bras, s'il se met beaucoup en extension, vous avez l'impression qu'il veut toujours sortir de vos bras. Si vous voulez le mettre en portage, que c'est difficile à faire, on appelle ça des bébés qui ne s'enroulent pas, ils ont du mal à retrouver leur position fœtale, et ça peut être dès la naissance comme un peu plus tard. C'est pas non plus normal à 3 mois de vouloir sortir à tout prix d'une écharpe de portage. Donc il tourne toujours la tête du même côté, ça peut être associé à une tête qui s'aplatit ou qui est déjà plate à la naissance. La tête de votre bébé, si vous la voyez un peu déformée dès la naissance, ça va valoir le coup d'aller voir un thérapeute manuel. Et si elle s'aplatit au fur et à mesure du temps parce qu'il a toujours tourné la tête du même côté ou parce qu'il s'est mis trop en extension. Retenez un truc important, parce que ça je le retrouve toujours en consultation, c'est que les parents ne comprennent pas très bien pourquoi les têtes s'aplatissent. C'est pas le fait que votre bébé tourne toujours la tête du même côté ou qu'il soit en extension qui fait que la tête s'aplatit, c'est le fait que par cette position qu'il prend de façon récurrente, toujours du même côté ou toujours en extension, sa tête va appuyer contre le support sur lequel elle est, à savoir si votre bébé est sur le dos toute la journée, ce qui est entre guillemets recommandé en tout cas pour quand on le pose. La tête de votre bébé grandit en fonction des contraintes, enfin tous les os d'ailleurs grandissent en fonction des contraintes et qui leur sont imposées, que ce soit des tractions ou des compressions. Et donc un bébé qui appuie un peu fort sur une partie de sa tête, que ce soit sur le côté ou derrière, de façon assez permanente, il va en fait empêcher la tête de grandir autant à cet endroit-là qu'à un autre et ça va l'aplatir. Caro, c'est clair ce que j'ai dit ?
Exactement, oui c'est bon, okay. Très bien.
Donc votre bébé a la tête plate, il tourne toujours la tête du même côté, il est en banane, en virgule, il se met en extension tout le temps, il se laisse pas porter, vous le trouvez qu'il a la tête dans les épaules, comme votre bébé il a pas de cou, quand vous lui donnez son bain, c'est impossible d'aller lui laver les plis du cou, il a les plis du cou un peu suintants, ça les bébés qui sont comme ça, qui sont tout compacts, Vous avez l'impression qu'ils ont quasiment le menton dans le sternum. Ça, c'est un bébé qui probablement présente des tensions. Dans les trucs qui sont moins observables, mais qui emmerdent bien tout le monde, les troubles digestifs, évidemment, du bébé. Votre bébé a des reflux ou les classiques coliques. Ça va être une raison de consulter. Et Caro, elle vous en reparlera dans les troubles de succion, parce que c'est un truc qui revient beaucoup quand il y a un trouble de succion, d'avoir des troubles digestifs. Et puis de façon plus générale aussi, votre bébé a du mal à dormir, il est inconfortable, on n'arrive pas à le poser, il pleure beaucoup, bref, ça ne va pas, votre bébé n'est pas comme vous l'avez annoncé, à savoir un petit être trop mignon qu'on pose dans un berceau et qu'on prend en photo. Alors, tout ça, c'est des raisons pour venir consulter chez un thérapeute manuel. Pourquoi ? Peut-être qu'on reviendra sur les causes après, parce que ça va se rejoindre. Tu veux nous dire les signes pendant l'allaitement, peut-être, qui laisse penser qu'il faut venir consulter.
Du coup, si jamais il y a une douleur, notamment sur un sein plus que l'autre, j'aurais dit.
Ouais.
Donc c'est aussi également, ça rejoint le fait de tourner la tête plus d'un côté que de l'autre.
Tout à fait.
Et un bébé qu'on a du mal aussi à positionner. Donc là, c'est souvent donc, les consultantes en lactation IBCLC qui nous réfèrent ces bébés-là, d'ailleurs.
Ouais.
Qui ont du mal du coup à trouver une position où le bébé est vraiment à l'aise. On voit que s'il y a trop de tension, c'est un bébé qui va toujours se tortiller, même en étant au sein, même en tétant, ça continue tout le temps. Après, on peut également avoir les bébés qui ont une toute petite ouverture de bouche avec du coup beaucoup de tension au niveau de la mâchoire, des claquements de langue, des fausses routes, ça peut aussi lors de la déglutition. Des enfants qui se décrochent énormément du sein quand ils tètent. Ils n'arrivent pas du tout à être hermétiques au sein et ils font que bouger tout le temps, les pauvres. Tremblement du menton également. Et tout ça, ça engendre donc ce que tu disais pour les douleurs digestives. Le fait de claquer la langue, par exemple, ils avalent de l'air à chaque fois. Donc, à force d'avaler de l'air, ça fait des rots qui sont coincés, des gaz qui deviennent douloureux.
Ouais.
Et là, on rentre un peu dans un cercle vicieux de douleurs, du coup.
Ok, ça c'est côté bébé. Et côté maman, quels signes on peut retrouver ? Alors juste avant qu'on reparle des signes sur la maman, vraiment notez bien que la première personne à appeler, si vous avez une galère comme ça, c'est vraiment une consultante en lactation. Vous avez un problème d'allaitement, la première personne à appeler, c'est la consultante en lactation qui va faire un point. Et souvent c'est elle qui nous réfère. Donc du coup c'est des symptômes, si jamais vous vous retrouvez chez nous, c'est très probable qu'on vous réfère ensuite à la consultante, parce qu'il faut faire un point lactation en règle générale, et c'est elle qui vous remontrera les bonnes positions, etc. Mais du coup, on peut aussi retrouver des signes chez les mamans. Là, on a parlé des bébés.
Les blessures, des crevasses qui se mettent en place à cause d'une mauvaise succion. Donc, à force, ça irrite le téton, le mamelon, et donc ça fait des vraies blessures qu'il faut prendre en charge assez rapidement, parce que sinon, la maman soit arrête d'allaiter. À cause des douleurs, où on met en place des embouts. Enfin, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place pour compenser, mais c'est pas la solution, ça. On cherche pas vraiment la cause du problème. Dans ce cas-là, on essaye plutôt de camoufler un petit peu le problème et on traite les conséquences plutôt que l'origine.
Ouais. Et nous, la cause, en général, on va plutôt la chercher chez le bébé. C'est très rare qu'on ait un souci avec la maman. Moi, ça m'est arrivé une fois de voir un bébé arriver et de dire... à la maman, c'est vous que je vais traiter, mais parce qu'en fait, elle présentait une douleur intercostale et quand le bébé tétait, ça réveillait une douleur intercostale. Mais enfin, ça m'est arrivé une fois sur une problématique d'allaitement et j'en vois pas mal. Donc vraiment, la cause en général, elle est du côté de votre bébé. Ça, je pense qu'on l'aura jamais assez répété dans Milkshake.
Exactement.
Les causes d'un bébé qui est coincé.
Alors, ça peut être les naissances qui sont difficiles, donc soit très 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 rapides, ou alors au contraire très 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 longues, dès qu'il y a l'utilisation d'instruments, forceps, ventouses, spatules, ça c'est aussi des grosses causes d'origine de tension. On peut avoir des grossesses contractiles, les grossesses jumellaires, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des douleurs qui ont été présentes, type sciatique ou gros blocage articulaire également pendant la grossesse. Donc tout ça en fait, parce que évidemment quand on est enceinte, il y a beaucoup de changements, que ça soit postural, hormonal, physiologique. On a notre centre de gravité qui change, la prise de poids avec la croissance du fœtus, etc. Donc tout ça rentre rentre dedans pour moi.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut en profiter pour dire de l'importance de venir vous traiter, vous, quand vous êtes enceinte, et de libérer les tensions qui peuvent siéger dans votre bassin et autour de votre utérus, qui vont permettre en fait que cet utérus puisse vraiment se déployer correctement et faire toute la place dont bébé a besoin. Ne vous inquiétez pas, la nature gagne toujours, donc l'utérus va finir par se déployer, mais souvent c'est au prix de tension. Et donc quand vous avez une sciatique qui traîne et qui va pas, des douleurs ligamentaires, etc., voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, et c'est important de venir consulter en amont. C'est déjà ça, faire de la prévention pour que votre bébé soit pas trop coincé. Alors du coup, comment nous on vous accompagne autour de ces histoires de troubles de succion? Caro, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, comment ça se passe une consultation, à la recherche de quoi on part, et puis après à la recherche de quoi on part, et ensuite on parlera plus spécifiquement des freins restrictifs. C'est vrai qu'on nous envoie beaucoup de bébés autour de cette prise en charge là, mais ouais, avant les histoires de freins restrictifs, qu'est-ce qu'on peut déjà faire, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut solutionner sans sélectionner des freins.
Alors, avant de parler des freins, effectivement, bah, comme on disait tout à l'heure, on va lever au maximum les tensions. Donc, au cabinet, quand ils arrivent, il y a tout d'abord une anamnèse globale où on reprend la grossesse, l'accouchement, ce pourquoi la maman consulte, quels sont les symptômes qu'elle a retrouvés chez son bébé. Et en fonction de ça, du coup, on fait la consultation, donc où on vient regarder en mobilisant le bassin, les lombaires, les thoraciques, les cervicales, la mâchoire. On regarde tout le corps de ce petit bébé des pieds à la tête pour lever le maximum de tension. Mm-hmm. Et si c'est une problématique sur l'allaitement, la maman peut remettre son bébé au sein et voir du coup s'il y a eu du changement ou pas en ayant levé déjà les tensions.
Ouais, tout à fait.
Et puis, si la maman consulte pour une histoire de frein restrictif, donc on peut, nous, en chiro et en ostéopathie également, du coup, suspecter un frein. Attention, je tiens quand même à dire qu'on ne pose pas de diagnostic médical. Et donc, on peut regarder tous les symptômes qu'on va également retrouver. Donc, une toute petite ouverture de bouche, ce que je disais tout à l'heure, quand le bébé claque de la langue à chaque déglutition. Et puis du coup, regardez où est-ce que, si ce frein est présent et est restrictif, où est-ce qu'il s'insère. Et pour lever le maximum de tension, mais juste de tension mécanique, je dirais, mais pas du tout anatomique, puisque ça, pour l'anatomie, il faut vraiment référer à une dentiste ou ORL ou pédiatre également pour poser ce diagnostic de frein.
Comme disait Caro, on suspecte hein, à chaque fois. D'ailleurs, comme les consultantes aussi formées qu'on soit tous à aller à la recherche de ces freins et de savoir s'ils sont restrictifs ou non, à la fin, le diagnostic, il est vraiment posé par la personne qui sectionne. C'est des professionnels médicaux purs qui posent ce diagnostic-là. Donc nous, on est là pour suspecter et leur réorienter, mais surtout vous accompagner autour. Donc, tu l'as dit, les signes de frein restrictif, c'est un peu tout ce qu'elle vous a répété déjà, enfin tout ce qu'elle vous a dit en premier lieu sur les signes d'un allaitement qui va pas bien. Et puis ça peut être lié à des freins, comme ça peut être lié à des tensions purement, parce que je pense que ce qu'on peut ajouter ici, c'est que les symptômes qui sont décrits autour des freins de langue sont des symptômes aussi de bébés qui présentent des tensions, tout simplement. Parce que c'est pas le frein en lui-même le problème, c'est les compensations que le bébé met en place autour de ce frein-là. Mais vous avez le droit de ne pas avoir de frein, mais d'avoir plein de tensions au niveau de la mâchoire, au niveau du palais, au niveau du corps en général. Et les bébés sont tellement des petits choux qui fonctionnent comme un ensemble, que quand il y a quelque chose quelque part qui ne va pas, alors je ne vous dis pas quand il est coincé au niveau du pied, ça l'empêche de téter, je vous mentirais en disant ça, mais un bébé qui a été un peu comprimé et qui a des tensions au niveau de son crâne, ça va très vite venir impacter sa succion, puisque la mâchoire dépend de l'équilibre du crâne. Et donc, on ne se jette pas tout de suite. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on nous les envoie assez facilement sur des problématiques de succion. C'est pourquoi les consultantes, en général, ont toujours un thérapeute manuel dans leur contact. parce que d'abord, on essaie de lever les tensions. Avant de savoir si le frein est restrictif ou pas, on essaie de lever toutes les tensions qui majorent la problématique du frein ou qui juste la créent, parce que parfois on libère et puis on se rend compte que finalement bébé s'en sort beaucoup mieux que ce que c'était juste avant, et donc ce frein qui avait l'air restrictif, on se dit qu'on va bien s'en sortir, qu'on va bien s'en sortir comme ça. Que dire d'autre au sujet de ces freins restrictifs et de notre suivi. Je crois que vous, Ankiro, vous avez un protocole que vous suivez autour d'une frénotomie, n'est-ce pas ?
Oui, alors du coup, ça c'est vraiment avec le travail pluridisciplinaire. Hein. Moi, je travaille sur place avec le docteur Noëlla Rajanson, ouais. Et également avec une consultante en lactation qui est là le jour de l'intervention. Donc, l'objectif, c'est de lever le maximum de tension avant la frénectomie pour que, du coup, il y ait une ouverture de bouche qui soit donc plus facile. Et pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, lever le maximum de tension pour que le bébé soit au top du top. Et ensuite, après l'intervention, donc tous les exercices, les étirements sont faits sur place avec la consultante en lactation. Et donc, les parents repartent en ayant fait déjà tous les exercices sur leur bébé.
Ouais, également. Une fois la fréno faite, en fait, c'est ça ?
Exactement, ouais. Une fois la frénectomie passée. Et ensuite, et du coup, si c'est des bébés allaités, ben, il y a également une mise au sein qui est faite avec cette consultante en lactation. Mmh. Mais également pour les bébés qui sont au biberon, il y a une mise au biberon aussi.
Oui, pour vérifier que tout le monde remange en partant.
Voilà, exactement. Okay. Et ensuite, du coup, on revoit les bébés en général à J+3, J+10 et J+20. C'est un peu les gros stades de cicatrisation du frein, et on veut aussi du coup s'assurer qu'il n'y ait pas de tension articulaire qui se sont de nouveau glissées, parce que du coup quand on libère l'anatomie d'un bébé au niveau de sa langue, bah, il y avait des compensations auparavant qui s'étaient installées. Donc il y a aussi tout un schéma moteur qui se remet en place, et il est important du coup d'accompagner ce bébé avec cette nouvelle langue qui bouge partout.
Ouais, tout à fait. Et puis autant la langue peut aller entre guillemets aller là où elle veut, mais parfois malgré tout elle n'y arrive pas.
Oui,
et donc
exactement.
Du coup il y a encore quelques compensations qui peuvent se faire après la frénotomie, et de l'importance de suivi juste après la fréno.
Ouais. Et d'où aussi l'importance de faire les exercices en amont, avant la frénectomie, pour muscler la langue. Puisque lors de l'intervention, on va uniquement libérer, Noëlla Rajanson, ou peu importe, dentiste, ouais. ou ORL ou pédiatre vont uniquement libérer l'anatomie, mais ça va pas donner la force à ce bébé. Donc, c'est pour ça que c'est important de muscler la langue auparavant.
Si vous êtes dans le coin de Bordeaux, vous avez la chance d'avoir un endroit comme ça qui travaille en pluridisciplinarité avec des gens qui sont tous super bien formés. Si vous êtes ailleurs, ça peut parfois être un peu plus difficile parce qu'on n'est pas tous au même endroit. Et ce qui est important, c'est quand même de se retrouver dans une sorte de réseau, en fait, où les gens se parlent entre eux et communiquent. Voilà, notez que ça, c'est vraiment nécessaire, ce travail pluridisciplinaire au sujet des freins de langue. On en a déjà parlé avec Noëlla dans l'épisode 19, mais il est indispensable. Celui qui travaille tout seul autour des freins de langue, c'est pas bon signe, en fait. A priori, il est... C'est pas possible qu'il s'en sorte de toutes les histoires seul. Donc, a priori, il s'est entouré de personnes, voilà, de consultantes, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, de thérapeutes manuels, de cette personne qui sectionne les freins. Et le point central de tout ça, c'est en général la consultante en lactation, puisque c'est très fréquemment sur des problématiques d'allaitement que les bébés arrivent sur des frénotomies. Et il me semble que si c'est un bébé au biberon, elles peuvent quand même...
Oui, tout à fait. Bah, surtout qu'on a en fait à peu près les mêmes symptômes quand même. Hein. Ils claquent de la langue, mais au biberon. Et ce qu'on retrouve beaucoup, beaucoup sur ces bébés-là, c'est surtout du lait qui s'écoule sur les côtés quand il boit son biberon. Ouais. Les bébés au sein, ils n'arrivent pas à être hermétiques au sein, mais au biberon, ça coule en fait. Vraiment, c'est des mamans qui vont dire, dès qu'il prend son biberon, je suis obligée de changer le bavoir au milieu. Ouais. Je suis obligée de faire attention, j'ai mon bras qui est trempé. Enfin, voilà, vraiment,
Il y en a
lait qui
partout, ça coule.
Exactement.
Partout, c'est pas hermétique, en effet. Et en effet, c'est les mêmes problèmes, et que votre bébé soit allaité ou biberonné, L'avantage, entre guillemets, du biberon dans ces cas-là, mais ça s'en est pas un, hein, c'est que c'est encore une fois, c'est masqué du symptôme, mais comme il y a tellement de formes de tétine possibles et imaginables, parfois vous en trouvez une qui rentre un peu genre, comme un Lego d'un Tetris dans le truc, et qui du coup fait qu'il y a moins de lait qui coule, mais c'est pas parce qu'il y a moins de lait qui coule que votre bébé il tète mieux. C'est juste que cette tétine-là, qui a priori n'est pas physiologique, puisque bébé tétait mal, se clipse un peu mieux dans sa bouche.
Ouais, exactement.
Donc voilà, vraiment de l'importance de ce travail en réseau autour des freins de langue, ça c'est vraiment super important. Et le thérapeute manuel, bah voilà, comme vous l'a dit Caro, il est là pour accompagner avant, préparer bébé, libérer toutes les tensions, et puis après... toujours pareil, accompagner, continuer de libérer les tensions jusqu'à ce que bébé finalement soit indépendant et que ça y est, il est pris la bonne pente et qu'il ne compense plus finalement autour de ce frein qui était restrictif. Est-ce qu'on s'est tout dit, tu penses, sur les histoires de freins restrictifs et d'allaitement, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu oublier?
Il me semble qu'on a fait le tour pour ce qui est des freins restrictifs.
Hein. Ouais, je pense qu'on est bien.
Je pense que c'était assez complet.
Ok, donc voilà, c'est important pour nous de vous parler du syndrome de Kiss. Le syndrome de Kiss, c'est un peu comme Voldemort, c'est celui dont on ne voulait pas dire le nom. Non, on ne peut pas ne pas vous en parler parce que c'est un mot que vous entendez forcément en tant que parent si vous faites quelques recherches, parce que votre bébé est plus ou moins compliqué, entre guillemets, à la maison. Et donc voilà, on va vous en parler un peu. Caro, est-ce que toi, tu veux dire un truc avant que je déballe tout mon truc sur le syndrome de Kiss?
Je vais te laisser l'expliquer, mais...
L'expliquer, juste... après tu rajouteras ce que tu veux.
Si jamais... Ouais, ça marche, on fait comme ça. Parfait.
Alors, donc d'ailleurs, Caro intervient à tout moment. Hein. Si tu y a un truc que toi, tu vois d'une façon un peu différente, voilà, c'est là qu'on verra peut-être aussi les nuances entre les deux métiers, et ça pourra éclairer les gens. Donc le syndrome de Kiss, vu d'un point de vue ostéopathique et ce que j'en ai compris. Donc le syndrome de Kiss, c'est un ensemble de signes et de symptômes qu'on retrouve chez un bébé. D'accord ? Ces signes et symptômes, c'est ceux que je vous ai décrits tout à l'heure. D'accord ? Globalement, c'est les mêmes. Donc on les reprend. La posture de votre bébé. Il est en virgule, il est en extension, la banane, il se jette en arrière, il a les bras qui... Vous le prenez dans les bras, il fait un peu la mouette, vous voyez, vous le prenez dans les bras là, quand on les prend sous les bras et qu'ils se mettent à faire l'avion. Bon, voilà, ils sont complètement en extension. Ils ont quand même une certaine raideur, ils sont difficiles à porter. Quand je dis porter, c'est en portage, porte-bébé, écharpe, etc. C'est des bébés où souvent les parents, ils disent « il aime pas le portage ». Voilà, je sens qu'il veut en sortir, ça lui plaît pas, il se met à pleurer. Ces bébés qui ont la tête dans les épaules, toujours pareil, quand on parle de posture, ils ont la tête dans les épaules, vous pouvez vous retrouver avec des bébés qui ont quasiment le menton au niveau du sternum, on dit qu'ils n'ont pas de cou. Les autres signes qu'on retrouve, c'est les plagiocéphalies et les brachycéphalies. On va refaire la différence entre les deux. Je vous parlais tout à l'heure des bébés qui ont la tête toujours du même côté. Donc si le bébé a toujours la tête, par exemple, du côté droit, c'est le côté droit à l'arrière de sa tête qui va être toujours appuyé contre un support quand il est allongé sur le dos. Et donc c'est ce côté-là qui va s'aplatir. La plagiocéphalie a cette notion d'asymétrie. C'est que d'un côté, la brachycéphalie, c'est l'aplatissement de la tête de votre bébé, mais vraiment en arrière, central. Et donc ça, c'est les bébés qui n'ont pas particulièrement de préférence pour tourner la tête d'un côté ou de l'autre, mais qui par contre sont très en extension et ils vont venir plus appuyer sur le support et finir par déformer leur tête. Certains arrivent déjà avec une plagiocéphalie ou une brachycéphalie, c'est un peu plus rare, mais voilà, c'est le signe qu'il y avait déjà des tensions en intra-utéro. C'est des bébés souvent qui ont des gros troubles digestifs, ça va jusqu'aux intolérances ou aux allergies alimentaires, on retrouve souvent des tableaux où au niveau digestif c'est assez compliqué, c'est des bébés qui pleurent beaucoup, qui éventuellement ne dorment pas bien. Alors vous allez pouvoir retrouver chez un bébé tous ces symptômes cumulés, ça s'empile et c'est l'horreur, et puis il y en a où ça va être un peu plus vicieux et puis on va avoir un truc très présent et puis un autre moins, certains on sait pas trop comment ils se débrouillent mais au niveau digestif ils s'en sortent alors que finalement ils sont complètement coincés. Tous ces signes et tous ces symptômes, ils laissent penser que votre bébé, il a été comprimé, compacté, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et c'est des bébés qui vont être plus difficiles à détendre que les autres. Parce que vous l'avez compris, les signes sont les mêmes, d'accord ? Mais c'est l'intensité de ces signes et surtout l'intensité des tensions que nous, on va retrouver en tant que thérapeute manuel, qui vont nous laisser penser que ça ressemble à un syndrome de Kiss. Moi, j'appelle ces bébés des bébés comprimés. J'essaie de pas trop utiliser ce terme de syndrome de Kiss parce que je le trouve parfois, voire souvent, anxiogène pour les parents. En tout cas, voilà, sachez que les gens qui ont identifié ce symptôme, c'est un médecin allemand, et lui, il a mis l'accent sur le blocage au niveau cervical qu'on peut retrouver entre le crâne, finalement, et les cervicales de votre bébé. Il y a, en général, un côté en particulier, ou les deux, si jamais le bébé est sur un système en extension pure, qui, finalement, bloque et qui est très difficile à décoincer. Les causes de ce... Tu veux dire un truc, Caro, ou ça va ?
Non, c'est bien, je trouve. Et aussi, juste les bébés qui ont tout le temps les poings très serrés.
Bien sûr, et ces bébés qui ont les poings serrés. Les poings serrés, c'est vraiment le signe d'un système en tension. Et on en parle aussi dans les freins de langue, d'ailleurs, de ces poings qui sont serrés. Et en fait, c'est pareil, c'est les compensations de ces freins. Le corps d'un être humain et d'un bébé, pour commencer, est fait de fascias qui tous se joignent les uns les autres. Et donc, une tension à un endroit se répercute facilement à un autre. Et le bout des mains voilà, vient se serrer et les poings garder serrés parce que c'est tout le système qui est en tension. Tout à fait. Merci, Caro. Sur les causes... Pareil, on va répéter la même chose, la grossesse. Une grossesse où il y a eu beaucoup de contractions, très tôt. Il y a des femmes qui viennent au cabinet et qui disent « Oh bah moi, à 3 mois, j'avais déjà l'impression d'avoir des contractions, 4 mois pareil. Et puis d'ailleurs, à 4 mois, j'ai commencé à être coincée, j'ai eu une sciatique pas possible, j'arrivais pas à la faire, personne n'a réussi à la faire passer, ça a été l'horreur. » Donc des gros inconforts pendant la grossesse, ça peut laisser penser déjà que voilà, le bassin de la maman... à des tensions et que le bébé va pas avoir toute la mobilité nécessaire à l'intérieur. Donc ces grossesses qui sont contractiles, les menaces d'accouchement prématuré, ça c'est le signe que le bébé il est un peu bas et qu'il appuie déjà assez tôt sur le col, donc qu'il est déjà un petit peu imbriqué dans le bassin. Ce que j'ai entendu de façon récurrente aussi chez ces bébés qui étaient très coincés, alors les grossesses gémellaires sont un facteur de risque parce que bah, 2 bébés dans un seul utérus, voilà, je vous laisse imaginer qu'ils sont plus facilement compactés l'un contre l'autre et contre leur structure environnante. Et puis, il y a ces histoires de bébés qui sont peu mobiles dans le ventre. Alors, c'est des bébés qui bougent quand même. Prenez un coup de poing par là, un coup de pied par-ci, etc. Mais vous n'allez pas avoir ce bébé qui va faire la couleuvre, là, dans votre ventre. Vous savez, ces vidéos de maman, là, où on voit les bébés, on a l'impression que c'est un truc surnaturel. Bon, bah, c'est normal, en fait, ce truc surnaturel, quand il y a l'espace dans l'utérus. Et on le voit plus sur les grossesses... pas sur les primipares, sur les grossesses ultérieures, parce que l'utérus a déjà fait le boulot et qu'il a déjà été habitué. Mais sur une primipare, on peut tout à fait avoir ces mouvements-là aussi, et quand le bébé il est bien mobile comme ça dans le ventre, il va avoir moins de chances d'être bloqué. Donc ce que je retrouve régulièrement sur des histoires de bébés très bloqués, moi, c'est des mamans qui me disent « Ah oui, il était toujours à droite, hein, ou toujours à gauche. » Et oui, il était là, il était bien, il ne bougeait pas. D'ailleurs, il a été là très tôt, et puis après, on n'en a plus entendu parler, il n'a plus jamais bougé. Ça, c'est quand même un truc qui se retrouve régulièrement et qui laisse penser que le bébé, il n'arrivait peut-être pas à prendre l'espace qu'il voulait et qu'il est resté coincé à cet endroit-là et qu'il a grandi, du coup, sur un milieu un peu restreint. Pendant l'accouchement, on répète, les accouchements déclenchés, qui souvent avec de l'ocytocine, du syntocinon, on appelle ça, le médicament s'appelle le syntocinon, qui permet d'augmenter la contractilité de l'utérus quand ça traîne un peu. Et l'ocytocine donne des contractions qui ne sont pas similaires aux contractions qui sont naturelles. L'utérus contracte de façon plus forte et, voilà, et moins physiologique, qui fait que les bébés peuvent ressentir des contractions plus fortes et être plus comprimés à la sortie. Les accouchements qui finissent en beauté avec forceps, ventouses et tout le tintouin. Donc en général, voilà, c'est que bébé est resté un peu coincé hein, dans le bassin et qu'il faut l'extirper de là dard. Et puis les césariennes, je dirais en particulier si elles sont faites en plus de façon urgente, puisque pareil, on est dans un cas où l'accouchement n'avançait plus, bébé souffre et donc du coup on vient le sortir de l'autre côté. Et là où parfois le passage dans le bassin en bas n'est pas qu'une question de compression, mais permet aussi de remodeler un petit peu tout ça et de remettre à zéro, là pour le coup il s'est fait comprimer dans tous les sens et en plus il bénéficie pas de ça et on l'enlève plus haut en césarienne. Il faut que vous voyez tout ça comme... comme une somme de facteurs, mais ne prenez pas peur si on vous déclenche votre accouchement ou si vous avez un peu contracté pendant la grossesse. Tout ça, c'est finalement chacun des facteurs de risque d'avoir un bébé qui est coincé. Donc il ne faut pas que vous preniez peur, voilà, si demain votre accouchement est déclenché, que vous disiez « oh là là, je vais avoir un bébé, ça va être un syndrome de Kiss, ça va être terrible ». Non, surtout pas, c'est pas ça le message qu'on essaie de faire passer, c'est que le cumul de toutes ces choses-là fait qu'on a plus de chances d'avoir un bébé coincé. Et ça marche dans les deux sens. On a de temps en temps des bébés en consultation qui ont une histoire sur le papier parfaite et puis qui pour autant présentent une somme de tension importante et qui sont pas faciles à décoincer. Et puis on en a qui ont une histoire où on se dit oh là là, quand on est à l'interrogatoire on se dit bon bah là ça va pas être drôle parce que vu l'histoire il va être complètement coincé, et puis contre toute attente ce bébé va pas si mal que ça. Donc voilà, ça je pense que c'est important à savoir pour pas s'affoler, et si vous contractez un peu parce que vous êtes stressé, voilà, paniquez pas. c'est pas une autoroute entre les deux. En tout cas, ce syndrome, on le nomme quand l'intensité des tensions est importante. Pour vous donner une image, essayez de penser à un ressort. Votre bébé est un ressort, de sa tête jusqu'à son bassin, il fonctionne comme un ressort qui, c'est dommage parce que vous voyez pas mes mains, je suis meilleure à parler avec mes mains, je sais pas pourquoi je suis un podcast d'ailleurs, je suis meilleure pour parler avec mes mains. Donc votre bébé est un ressort de la tête jusqu'à son bassin, et donc fonction de la contractilité de votre utérus, de position qu'il a pris un peu fantasque pendant la grossesse, de cet accouchement qui est trop rapide avec des contractions très fortes, trop long avec des contractions pas forcément très fortes mais très long, l'ocytocine qui donne des contractions différentes, les instruments, etc., ce bébé va pouvoir être finalement comprimé, ce ressort va être comprimé. Un ressort, c'est super, parce qu'on le comprime, il se décomprime, on le comprime, il se décomprime, sauf que si on le comprime trop fort, ou trop longtemps, ou pas bien, ou de travers, il va peut-être finir par garder une empreinte, finalement, de ces compressions qui lui sont appliquées, et donc on le force à s'adapter. Et c'est quand le ressort, finalement, garde une grosse empreinte de tout ça qu'on parle de ces bébés qui sont coincés. De la même façon, pas de panique, pour ceux qui m'auront vu en consultation, je parle très facilement de cette histoire de ressort, parce que tous les bébés, qu'on soit sur un syndrome de Kiss ou qu'on soit sur un bébé qui a simplement quelques blocages, fonctionnent souvent sur ce système de tension, de compression. On retrouve des tensions à différents endroits, mais c'est un système. Le ressort a été comprimé d'un côté, de l'autre. Imaginez ce ressort, si on le comprime très fort, il va finir par... le milieu du ressort va finir par filer sur le côté. Vous voyez, alors peut-être que si je vous dis la pile d'assiettes, un petit coucou à Catherine Ribus, si vous empilez une pile d'assiettes comme ça, et au bout d'un moment, vous voyez, il y a une assiette au milieu qui va finir par filer sur le côté parce que la compression, elle est trop forte, et bah, c'est là que vous allez retrouver votre bébé en virgule s'il n'arrive pas à se libérer tout seul de cette compression de la pile d'assiettes. c'est beaucoup mieux avec les mains, hein, Caro, elle regarde
pas. Oui, c'est
mains.
Vrai.
Et je pense que c'est beaucoup mieux avec les mains. Vous nous direz si c'est clair. Si c'est pas clair, je vous referai une vidéo. Donc, le mécanisme, il est le même que votre bébé. Il est de petites ou de grosses tensions. C'est l'intensité, encore une fois, des tensions et le blocage cervical associé qui laisse penser à ce fameux syndrome de Kiss, qui, soit dit en passant, encore une fois, n'est pas une maladie. Donc, si vous reconnaissez votre bébé dans ses symptômes, le meilleur conseil, c'est quoi ? C'est d'aller consulter un thérapeute manuel qui soit formé à cette problématique. Parfois, on ne s'en sort pas tout seul. Moi, je sais qu'en tant qu'ostéo, quand j'ai un bébé qui coince vraiment beaucoup et que je trouve que je commence à sérieusement galérer avec mes deux mains, j'appelle ma collègue et on fait des quatre mains pour avoir un contre-appui finalement. Et c'est une histoire d'accélérer le travail, en fait. Voilà, d'accélérer le travail qu'on peut faire. Caro, j'ai trop parlé. Qu'est-ce que tu veux dire sur le syndrome de Kiss?
Non, bah là, j'ai trouvé très complet. J'aurais peut-être rajouté l'histoire du cordon ombilical à la naissance également.
Ouais, alors vas-y, parce que moi, j'avoue que c'est un truc auquel je m'attache moyennement, mais vas-y.
Non, mais dans l'anamnèse plutôt, remarqué que très souvent, ces bébés justement qui avaient de gros blocages articulaires au niveau des hautes cervicales, il y avait très très souvent une histoire de cordon ombilical également coincé autour du cou au moment de la naissance.
Ouais, donc ça peut être aussi un truc, toi, tu penses, qui laisse penser qu'il faut venir consulter si on a entendu qu'il y avait une circulaire de cordon ou deux.
Ouais, je dirais que oui, comme, ouais, exactement.
Comme un des facteurs de risque d'un bébé qui coince.
Et également les bébés où pendant l'accouchement, on vous dit également qu'ils regardent vers le ciel.
Ah ouais, bien sûr, t'as raison. Ouais. Ces histoires de bébés qui regardent vers le ciel ou qui regardent les étoiles.
Exactement.
Et très fréquemment, c'est des bébés, et en plus je connais ça parce que c'était mon cas, c'est des accouchements qui sont souvent plus longs. Ouais. Parce que quand ils regardent les étoiles, en fait, ils se présentent pas tout à fait correctement sur votre col. Et donc du coup, les contractions peuvent mettre un peu plus de temps, soit à enclencher l'ouverture du col, soit ça peut stagner au bout d'un moment. Et voilà, c'est... Donc regardez les étoiles. Les bébés regardent, si vous êtes allongé sur le dos, par exemple, votre bébé, il est censé regarder le sol, en fait, quand il sort de votre ventre. Notez que la position sur le dos n'est pas la position la plus physiologique pour accoucher, mais peu importe. Enfin, ça va parler à tout le monde. Et s'il est en train de regarder les étoiles, voilà, c'est pas la position optimale. C'est possible, mais c'est pas optimal. Et d'ailleurs, souvent, ça nécessite une petite manœuvre. Enfin, les sages-femmes qui sont là ou les obstétriciens, je crois que les sages-femmes, elles le font aussi. Moi, c'était une sage-femme qui me l'avait fait. Ils viennent, en fait, tourner le bébé à un moment pour lui permettre de s'engager plus facilement. Et ça, c'est vrai que du coup, bah, c'est des bébés qui ont été compactés pas tout à fait sur le bon axe.
Oui, ouais,
qui
exactement.
Qui vont présenter plus de tension. Autre chose ?
Bah non, pour moi non, c'est parfait.
Super. on est très contentes de nous. Voilà, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ? On refait un petit focus allaitement pour se remettre bien les idées en place. Donc les signes qui peuvent, encore une fois, passer un coup de fil à votre consultante en lactation, c'est elle qui est à même de bien faire, de bien diagnostiquer comment va votre allaitement, tester la succion de votre bébé, etc. Une fois que c'est fait ou en parallèle, vous pouvez bien nous consulter pour donc bébé qui ouvre pas bien la bouche, qui s'accroche pas bien au sein, qui a du mal
qui
à se décrocher,
voilà,
qui se décroche. Ces bébés, ah oui, c'est, ils disent le pied vert là, c'est ça?
Exactement.
Ouais, c'est ça.
On se voit en vidéo, mais en fait, on fait toutes les deux le pied vert chacune sur notre écran. Mais...
Elle est mignonne. ces bébés qui vont, donc le pied vert, vous savez, c'est cet oiseau là qui tape dans l'arbre là, qui fait des coups de tête avant arrière et qui vient un peu choquer l'arbre. Ces bébés là, ils cherchent le sein, ils le trouvent plus, ils partent, ils reviennent. Donc, difficulté à la prise du sein, celui qui part du sein et qui revient tout le temps, qui n'arrive pas à rester accroché, la langue qui claque, un bébé qui ventouse pas bien, le sein qui prend beaucoup d'air, une maman qui a mal, une maman... souvent vous avez mal en fait, c'est ça le principal sujet sur lequel vous venez. Les bébés qui prennent pas de poids, mais ça évidemment c'est d'abord à voir avec une consultante parce que on a beau libérer le bébé de ses tensions, il faut voir si la lactation derrière elle suit. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ces bébés allaités quand on les voit arriver?
J'ai ceux qui dorment la bouche ouverte et la langue reste en bas.
Tout à fait, vos bébés dorment la bouche ouverte et la langue est en bas. Quand vous ouvrez la bouche de votre bébé, la langue elle reste collée à son palais. Noëlla, elle a fait une super vidéo d'ailleurs là-dessus, là il n'y a pas longtemps, je la remettrai en story au moment où l'épisode ici sortira parce qu'elle est super bien foutue.
Également les tétées très très fréquentes où on a l'impression que le bébé n'est jamais rassasié.
Le bébé qui continue de pleurer en fin de tétée, il n'est pas rassasié. Celui qui s'endort trop vite.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Ouais,
à peine il tète, il s'endort. Du coup, vous voulez essayer de le poser. Vous le posez, il se réveille, il veut retéter et ça recommence.
Indéfiniment.
Et ça recommence. Exactement.
Voilà, ça, c'est les grands signes autour de l'allaitement. Et puis, si jamais vous voyez un frein énorme sous la langue de votre bébé et que personne ne l'a vu avant ça, parce que malheureusement, ça arrive, pareil, appelez votre consultante et puis venez consulter rapidement pour qu'on puisse lever les tensions autour de ça au plus vite et les aider à bien téter. Parce que même avec un frein, parfois, il arrive qu'on trouve un frein qui soit diagnostiqué comme restrictif, qu'il serait, dans le meilleur des mondes, bon de le couper, mais que vous ne soyez pas d'accord avec ça, que vous n'en ayez pas envie. Et je crois qu'on le dit assez bien dans les épisodes sur les freins, c'est un choix qui vous revient à vous, évidemment. Et en aucun cas, on est là pour vous forcer à faire une prise en charge qui vous rebute, qui vous fait peur. Voilà, on est là pour vous rassurer, pour vous donner toutes les infos. Mais parfois, vous n'avez pas envie. Et on peut aussi faire des choses, encore une fois, en pluridisciplinarité. Nous, on peut accompagner un bébé dans ses premiers temps de vie pour qu'il tète au mieux de ce qu'il peut avec ce frein-là. La consultante, elle sera là pour entretenir la lactation et faire en sorte de trouver une position qui convienne le mieux possible. Enfin voilà, tout est possible. L'idée étant en tout cas que le quotidien soit serein et avec un bébé qui arrive, et vous l'avez compris, il a toutes les raisons d'avoir une petite tension ou des grosses tensions. La thérapie manuelle, c'est quand même un peu un incontournable avec un bébé. Quand j'ai commencé à travailler, je me souviens que j'étais pas encore complètement formée aux histoires de pédiatrie, et je me souviens que je disais aux parents, ils me disaient, est-ce que c'est obligé de venir faire une consulte après la naissance et tout ça, et je leur disais, bah écoutez, oui c'est mieux, mais bon, les bébés n'ont pas attendu les ostéos pour bien grandir. J'en suis un peu revenue. Évidemment, il y en a qui n'en auraient pas besoin, voilà, c'est rare de rien avoir du tout à la naissance. Les compressions pendant une grossesse et un accouchement, elles sont telles qu'on peut avoir gardé quelque chose d'imprimé en soi et pas avoir réussi à s'en libérer. Alors un petit check, de toute façon, c'est quand même pas mal. Et si en plus votre allaitement, il est compliqué, vraiment, tournez-vous vers des gens qui sont formés à ça. Caro, toi, en chiro, il y a des formations spécifiques autour de la succion des bébés. Comment ça fonctionne chez vous ?
Oui, il y a des formations spécifiques, effectivement, bah, vraiment axées sur la pédiatrie. Mm-hmm. En plus, après, donc, de base, on a déjà un beau bagage hein, quand on sort du coup de l'IFEC, c'est l'Institut franco-européen de chiropraxie. Il n'y a qu'une seule école en France qui forme les chiropracteurs.
Ouais.
Donc, on a déjà un gros bagage en pédiatrie. Et ensuite, libre à chacun de pousser les formations en France, à l'international, en fonction de ce qu'on a envie de faire ou pas.
La pétence. Pour Exactement. Nous, en ostéo, c'est, je trouve, un tout petit peu plus compliqué parce que, à mon sens, et ce n'est que mon avis, mais la formation initiale pour les ostéopathes en pédiatrie, je pense, enfin, en tout cas, ma formation initiale à moi n'était pas suffisante. Je trouve que c'est vraiment les choix qu'on fait ensuite de... Les appétences qu'on a pour le domaine ou non, qui font qu'on va se former et que même quand on va se former plus spécifiquement à l'ostéopathie pédiatrique, il n'est pas évident qu'on va nous parler de succion. C'est vraiment pas aussi automatique que ça. Moi, typiquement, je suis passée par des consultantes en lactation pour apprendre ces histoires de succion, de mouvement de langue, de freins restrictifs, etc. Et donc voilà, y en a plein qui le font. Il y en a plein aujourd'hui qui le font. Donc il y en a de plus en plus. C'est une super nouvelle parce que la succion dans l'équilibre d'un bébé, c'est quand même beaucoup trop important pour passer à côté. Allez voir des gens qui se sont vraiment intéressés au domaine. Je crois que c'est un bon conseil.
Ouais.
Voilà. Je crois qu'on en a dit pas mal.
Ben oui.
Tu veux ajouter un dernier truc, Caro ?
Pour moi, non. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. J'ai l'impression que c'était complet. J'espère en tout cas qu'on a pu lever beaucoup d'interrogations.
Ouais, voilà. Et puis après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Mettez un commentaire sous le post du podcast pour nous poser des questions. Et puis si ça génère des questions, on y revient. On y reviendra. On a mis à peu près 4 mois à réussir à tourner cet épisode. Je pense qu'au mois de décembre 2021, on peut en faire un deuxième, quoi.
Aucun problème, avec grand plaisir.
Ok. Bon, voilà, j'espère qu'on vous aura apporté un éclairage sur à quoi servent les thérapies manuelles autour de l'allaitement. Et puis, on a forcément élargi parce que l'allaitement, c'est un domaine, une occupation de votre bébé qui dysfonctionne quand il a des tensions. Mais on était obligé de voir plus large que ça pour que vous compreniez, parce que ça n'a pas de sens de parler que de l'allaitement. C'est pas bébé tête mal, il a juste la mâchoire qui coince, c'est plus compliqué que ça. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éclairé. Et puis je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Caro, à plus.
À très bientôt, et puis merci beaucoup Charlotte.
De rien.
À bientôt.
Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre I'll Be There, qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voice is in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. Guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh, I'll be there, I'll be there. Trust me, every time I have you back in, I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.